VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. République démocratique du Congo, 9 miliciens tués en 2 jours dans l'est de la RDC. C'est ce qu'a fait savoir l'armée en précisant que 5 miliciens congolais et 4 membres du groupe ougandais musulmans des ADF, les forces démocratiques alliées, ont été tués dimanche et lundi au cours de 3 attaques des militaires congolais contre l'opposition. Le major Mark Azukai, l'un des porte-parole de l'armée congolaise dans le Nord Kivu, a par ailleurs indiqué que les FRDC, l'armée nationale congolaise, ont capturé 5 Maïmaï et 1 ADF. Et toujours en RDC, les militants congolais des droits de l'homme ont commémoré lundi l'an 1 de la mort de l'un des leurs, Rossi Mukendi, tué par balle le 25 janvier 2018 par un policier alors qu'il manifestait contre le régime de l'ex-président Joseph Kabila à l'appel du comité laïque de coordination. La structure de l'Église catholique qui militait à l'époque contre le 3e mandat de Joseph Kabila. Un an après, le policier qui a abattu Rossi Mukendi n'a toujours pas été condamné et la famille de la victime interpelle la justice. Reportage d'Ozé Manzana de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
C'était le dimanche 25 février 2018, lors de la 3e marche pacifique des chrétiens catholiques contre les pouvoirs de Joseph Kabila, que Rossi Mukendi Chimanga, catholique engagé et activiste pro-démocratie, a perdu la vie. Il avait été fauché par balle par un élément de la police venu disperser la manifestation. Une année après sa mort, sa famille ne sait toujours pas tourner cette page douloureuse. La maman de Rossi Mukendi continue de réclamer que justice soit faite. Madonga Lula.
Le procès de mon fils, Rossi Mukendi, avait bien débuté. Nous avons commencé au parquet de Matete, puis on nous a envoyés à la commune de la Gombe. Depuis lors, on ne sait plus ce qui se passe. Nous sommes tristes et malheureux, car ceux qui ont tué mon fils continuent à vivre tranquillement sans être inquiétés. Mon fils n'était pas mort par balle perdue, comme certains le disent. Il était ciblé et tué. Nous demandons à la justice de faire correctement son travail pour que les vrais auteurs du meurtre de mon fils soient condamnés.
Et pour maître Yannick Chimanga, la mort de son frère Rossi Mukendi n'était pas facile à supporter. Mais aujourd'hui, il se réjouit car Rossi Mukendi, son frère, est devenu le symbole de l'engagement citoyen. Une année après la mort de son père, Kelly Mukendi Chimanga, fils de Rossi Mukendi, élève en 4e année scientifique à l'école Sainte-Famille en Gaba, dit être heureux d'avoir un père qu'on qualifie aujourd'hui d'héros.
La vie sans lui, c'est un peu plus dur, là. On supporte toujours. Le vide est toujours là. Le vide est toujours resté dans la famille. Je lui croyais seulement comme s'il était qu'un simple père pour moi. Et maintenant, là, comme on lui qualifie d'un héros, c'est. Donc pour moi, c'est déjà ma joie à moi aussi d'avoir un père qui est appelé aujourd'hui un héros.
Compagnon des luttes de Rossi Mukendi, certains membres des mouvements citoyens sont catégoriques. Pour eux, Rossi Mukendi ne repose pas en paix. La lutte doit continuer. Gloire Wachipa est coordonnateur du mouvement citoyen Cocorico.
La justice n'a pas encore été faite. Il y a un nouveau régime qui s'est installé. Nous n'avons pas chercher à ce que nous puissions garder le même les acteurs qui sont là. Nous voulions à ce que nous puissions changer complètement les systèmes qui étaient en place. Nous n'avions pas encore fini ce que nous avions commencé. Cette lutte doit encore continuer.
Pendant ces temps, plusieurs mouvements citoyens demandent au gouvernement central de décréter la journée du 25 février comme journée fériée, journée nationale de la lutte citoyenne.
Élection au Nigeria maintenant. Le président Muhammadu Buhari est toujours en tête de la présidentielle dans le pays ce mardi, d'après les résultats partiels annoncés progressivement par la Commission électorale nationale. Le chef de l'État sortant a jusque-là remporté 8 États contre 5 à son principal rival Atiku Abubakar. Les chiffres donnés par la Commission nationale électorale, 3,5 millions de voix pour Muhammadu Buhari contre 2,9 millions à Atiku Abubakar. Mais le PDP, le principal parti d'opposition, c'est donc le Parti populaire démocratique d'Atiku Abubakar, accuse la PD du président de manipuler les résultats de la présidentielle. Yakuba Ouedraogo pour les détails.
C'est inacceptable, a déclaré Ouché Segondous, directeur de campagne de l'ancien vice-président Atiku Abubakar. Il a ajouté que cela va être difficile pour le pays tout entier d'accepter un tel niveau d'intimidation, affirmant que dans les bastions de son parti, des bureaux de vote ont été ouverts en retard ou saccagés. La semaine dernière, le PDP a accusé Muhammadu Buhari de n'avoir jamais été démocrate après qu'il a exhorté l'armée à sévir contre les fraudeurs pendant le vote. Le parti au pouvoir a réagi, accusant le PDP de jouer un jeu dangereux en voulant discréditer et déstabiliser le processus électoral. Même si les résultats officiels n'ont pas été révélés, chacun a annoncé sa victoire dès dimanche et accuse l'autre de sabotage et de tricherie. Les observateurs de l'Union européenne ont invité les candidats qui s'estiment lésés à utiliser la voie de la justice. Pour être élu dès le premier tour, le vainqueur doit obtenir, outre la majorité des suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans les deux tiers des 36 États auxquels s'ajoute le territoire d'Abuja. Sinon, un second tour devrait avoir lieu dans une semaine.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Élection au Sénégal maintenant, après la revendication par le camp du président sortant Macky Sall d'une majorité absolue à la présidentielle de dimanche, le pouvoir et l'opposition continuent à s'affronter sur la tenue ou non de second tour. Les autorités, pour leur part, ont dans la foulée recadré les différentes parties avant de continuer à donner les premiers résultats département par département. On écoute notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
Tout a commencé avec la déclaration du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah John donnant la victoire au président sortant Macky Sall.
Les résultats compilés nous disent aujourd'hui qu'il nous faut féliciter le président Macky Sall pour sa réélection au premier tour. Aujourd'hui, nous pouvons nous attendre à un minimum de 57% pour le candidat, le président Macky Sall.
Pour l'opposition, il est impossible que le président sortant recueille autant de suffrages. C'est ce qu'affirme Abdourahmane Diouf, porte-parole du candidat Idrissa Seck.
Les résultats que nous avons cumulés de tous les candidats de l'opposition donnent, dans une hypothèse haute, 44% au candidat Macky Sall, 39% dans une hypothèse basse.
En attendant les résultats provisoires de la Commission électorale nationale autonome Sénat, la majorité présidentielle se dit victorieuse dès le premier tour, alors que l'opposition, elle, soutient qu'il y aura forcément un second tour. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Soudan, face à la persistance des manifestations, le président soudanais a durci le ton lundi en interdisant ce type de rassemblement. Mais les organisateurs de la contestation continuent à appeler le peuple à descendre dans la rue. Après avoir instauré vendredi dernier l'état d'urgence dans tout le pays, le chef de l'État soudanais a décrété que seules les manifestations autorisées seront désormais tolérées. Dans ce cadre, il dit avoir autorisé les forces de sécurité à mener des raids dans des bâtiments où des activités suspectes ont lieu et aussi à procéder à des fouilles corporelles. Actualité hors d'Afrique maintenant, au Vietnam, Hanoï, la capitale vietnamienne, se prépare à accueillir demain jeudi le deuxième sommet entre le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. Objectif du patron de la Maison-Blanche, arriver à la dénucléarisation de la Corée du Nord, même s'il affirme être prêt à prendre son temps. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Kim Jong-un est arrivé au Vietnam ce matin après un long périple ferroviaire à travers la Chine pour une deuxième rencontre avec Donald Trump, lourd d'enjeux au vu du caractère largement symbolique de la déclaration du précédent sommet de Singapour. Le président américain s'est envolé pour Hanoï à bord de Air Force One. Il devrait atterrir dans la capitale vietnamienne aujourd'hui, dans la soirée. Donald Trump s'est voulu optimiste, assurant sur Twitter attendre avec impatience un sommet très productif. Les deux dirigeants dîneront ensemble mercredi soir en compagnie de certains de leurs a indiqué à la presse depuis Air Force One, Sarah Sanders, porte-parole de la Maison-Blanche. En juin, à Singapour, Kim Jong-un s'était engagé à travailler vers la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Mais depuis, le manque d'avancées concrètes ont rendu sceptiques nombre d'observateurs. Les États-Unis ont maintes fois réclamé que Pyongyang se débarrasse de son arsenal nucléaire de manière complète, vérifiable et irréversible. Même pour la Corée du Nord, la dénucléarisation a un sens plus large. Elle veut la levée des sanctions internationales qui l'étranglent et la fin de ce qu'elle perçoit comme les menaces américaines.
Merci de votre attention.